à 73 36 36 ou sur bestfenêtre.fr. Best Fenêtre, certifié RGE Calibat pour profiter des aides de l'État. Alors n'oubliez pas, la qualité, les plus grandes marques au meilleur prix, c'est chez Best Fenêtre.
Bonjour, c'est Bernard Amboif. Retrouvez Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive, tous les vendredis après-midi à 16h30. Avec Rav Eli Lemel, Rav Mandechai Bitton, Rav Guy, tous les vendredis après-midi sur Radio Shalom, Kabbalat Shabbat à 16h30.
Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM.
Très bonne soirée à l'écoute de Radio Shalom, il est 18h.
Radio Shalom, le journal,
vous est présenté par Raphaël Uzan.
Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Radio Shalom pour une édition spéciale au troisième jour de la guerre. Les bombardements continuent entre Israël et l'Iran. L'armée israélienne a frappé le ministère de la Défense et le siège de la police à Téhéran ainsi que des installations pétrolières. L'Iran de son côté a lancé une nouvelle salve de missiles sur Israël. Les explications de Dror Ebensapir, notre correspondant sur place. Israël et l'Iran ont poursuivi leurs échanges de frappes déclenchés par une attaque israélienne massive contre des sites militaires et nucléaires. L'Iran confirme de son côté la mort du chef de son programme de missiles ainsi que de 7 de ses adjoints. Israël cible décidément les installations nucléaires d'Isafan et une usine de fabrication de drones et de radars à Shiraz, dans le sud du pays. Durant la nuit, 50 chasseurs israéliens ont frappé le cœur du programme nucléaire iranien à Téhéran et plus de 80 objectifs ont été visés, notamment les quartiers généraux du ministère de la Défense iranien. L'Iran a lancé dans la nuit des dizaines de missiles sur le centre d'Israël, provoquant la mort de 6 personnes à Bat Yam, dont 2 enfants, lors de ce que les autorités qualifient de nuit la plus difficile depuis le début de la guerre. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, en réaction, s'est rendu sur le site d'impact à Bat Yam, qualifié, je cite, « L'Iran paiera très cher le meurtre délibéré de civils ». En France, Emmanuel Macron demande au président iranien de revenir rapidement à la table des négociations sur le nucléaire. Ainsi, le ministre français des Affaires étrangères qualifie le programme nucléaire iranien de menace existentielle. Et nous sommes en ligne à présent avec Dror Ebensapir. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, au troisième jour de la guerre, les bombardements continuent entre Israël et l'Iran. L'armée israélienne a frappé le ministère de la Défense et le siège de la police à Téhéran, ainsi que des installations pétrolières. L'Iran, de son côté, a lancé une nouvelle salve de missiles sur Israël, Dror.
Oui, une nouvelle salve de missiles sur Israël lancée par l'Iran dans l'après-midi. Concernant la précédente, elle n'a laissé aucune victime. Et tous les missiles lancés par l'Iran ont été interceptés, mais ça n'a pas été le cas au cours de la nuit. Le bilan des deux salves de missiles, celle d'hier soir et celle qui s'est déferlée sur le centre d'Israël au bout de la nuit, ce bilan est très lourd, puisqu'il s'élève désormais à 11 morts, 4 membres d'une même famille, 4 femmes membres d'une même famille arabe-israélienne dans la localité de Tamra, c'est pas très loin de Haïfa, dans le nord du pays. Ça, c'était le bilan de cette première salve hier soir, puis la deuxième au cours de la nuit, qui a provoqué la mort de 7 personnes à Bat Yam, banlieue sud de Tel Aviv. Le bilan est très lourd et les images sont très impressionnantes puisque plusieurs immeubles ont été presque entièrement détruits. Cela dit, les Israéliens qui séjournaient dans ces immeubles et qui s'étaient rendus dans les espaces protégés ont eu la vie sauve. Ce n'est pas le cas, malheureusement, de 7 personnes. Il y a toujours des recherches, d'ailleurs, sous les décombres. Il se pourrait que le bilan s'alourdisse encore davantage. Quant aux opérations israéliennes en Iran même, vous les avez évoquées, on assiste à une diversification des cibles de l'armée de l'air israélienne. Un quartier général de la police iranienne a été visé, des raffineries de pétrole également à Téhéran où l'aviation israélienne peut opérer quasiment comme elle l'entend, puisque la défense antiaérienne iranienne a été en très grande partie détruite par les raids de l'armée israélienne. Et puis une nouveauté, aujourd'hui, les avions de chasse israéliens s'en sont pris à l'aéroport de Mashhad, c'est dans le nord-est de l'Iran, à une très longue distance d'Israël. C'est l'objectif le plus éloigné géographiquement d'Israël qui a été atteint depuis le début de cette offensive israélienne. Un avion ravitailleur de l'armée de l'air iranienne a été détruit par les avions de chasse israéliens.
Dror Eben Sapir, je vous rappelle que vous êtes l'un de nos correspondants en Israël. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et je vous le disais en titre, l'Iran a annoncé qu'une frappe israélienne ayant tué le responsable du programme de missiles des gardiens de la Révolution avait également été éliminée, 7 de ses adjoints de confiance, perturbant gravement la chaîne de commandement. L'Iran avait précédemment, pour rappel, confirmé la mort du général Amir Ali Azizeh, chef de la division aérospatiale des gardiens, lors de la frappe de vendredi. L'Iran, dans le même temps, a sollicité Oman et le Qatar pour qu'ils servent d'intermédiaires auprès des États-Unis dans une tentative d'arrêt de l'offensive israélienne et ainsi de relancer les négociations. Parallèlement, l'Arabie saoudite tente également en coulisses d'obtenir une forme de cessez-le-feu pour reprendre les pourparlers. Ces démarches iraniennes interviennent alors que Washington précise que seul un accord iranien sur la proposition américaine incluant l'arrêt complet de l'enrichissement d'uranium permettrait de mettre fin aux frappes israéliennes. L'Iran aussi, dans le même temps, signale de nouvelles frappes israéliennes sur des installations nucléaires à Isfahan et sur des sites stratégiques à Shiraz. Ces bombardements s'inscrivent dans la poursuite de l'offensive israélienne contre l'infrastructure militaire et nucléaire, iranienne. À Shiraz, dans le sud du pays, les forces israéliennes ont visé le quartier général du corps des gardiens de la révolution islamique, ainsi que plusieurs centres militaires. Retour en Israël, où on vient de l'apprendre, au moins 14 scientifiques nucléaires iraniens ont été éliminés dans des attaques israéliennes depuis vendredi, notamment par des voitures piégées. Tzahal a publié hier les noms de 9 de ces scientifiques, indiquant que beaucoup étaient les successeurs de Mohsen Fakhrizadeh, surnommé le père du programme nucléaire iranien, qui aurait été assassiné par Israël en 2020. Tzahal a déclaré, je cite, « L'Iran cible délibérément les civils, nous visons le militaire et le nucléaire ». C'est ce qu'a déclaré un responsable de l'armée israélienne, ajoutant que l'Iran avait planifié de construire et produire 8000 missiles balistiques prochainement. Nos avertissements aux civils illustrent la différence entre leur stratégie et la nôtre. Tzahal a annoncé dans le même temps que près de 50 chasseurs de l'armée de l'air israélienne ont survolé Téhéran durant la nuit pour frapper les infrastructures du projet nucléaire iranien sous guidage du service de renseignement. Plus de 80 objectifs ont été visés, notamment les quartiers généraux du ministère de la Défense iranien dans le cadre de l'opération Réveil du Lion. Tzahal a frappé plus de 170 cibles et plus de 720 composants d'infrastructures militaires en moins de 3 jours. Et puis Dror l'a évoqué, l'Iran a lancé dans la nuit des dizaines de missiles sur le centre d'Israël, provoquant la mort de 6 personnes à Bat Yam, dont 2 enfants, lors de ce que les autorités qualifient de nuit la plus difficile depuis le début de la guerre. Les projectiles ont causé des impacts directs sur des immeubles résidentiels dans cette ville côtière et à Rehovot. 3 personnes sont toujours portées disparues à Bat Yam, où les secours craignent un effondrement des structures touchées. À Rehovot, les recherches se poursuivent pour extraire une personne piégée sous les décombres. Au total, quelques 170 blessés ont été recensés dans la région de Tel Aviv et la plaine côtière, dont au moins 6 dans un état grave. Tzahal ordonne à tous les habitants du pays de demeurer à proximité des espaces protégés. Les déplacements dans les lieux publics doivent être réduits au minimum et les rassemblements publics évités. En cas d'alerte, la population doit se rendre le plus rapidement possible dans un espace protégé et y rester jusqu'à nouvel ordre officiel. En tout cas, pour ce qui est des alertes nationales, pas de dégâts ni de victimes signalées à ce stade. Et puis justement, pour prendre le pouls de comment va le pays, nous allons écouter tout de suite le témoignage de Catherine Garçon, qui se situe précisément à Jérusalem. Et nous sommes en ligne à présent avec Catherine Garçon. Catherine, bonjour.
Bonjour.
Alors l'Iran a lancé dans la nuit une série de dizaines de missiles balistiques sur l'ensemble du pays. Racontez-nous comment vous avez passé cette nuit.
Ben, un petit peu comme les autres nuits, c'est-à-dire on fait attention, voilà, on entend le téléphone. Alors, c'est plus comme avant, parce que maintenant, ils ont fait quelque chose qui est mieux, ce qui s'appelle une ATRA, c'est-à-dire on vous prévient que bientôt, vous devrez rentrer dans la chambre blindée. Et après, il y a la deuxième chose, ça sonne. Et là, on rentre. Et donc, ben, on reste et on attend la fin. On regarde un peu, contrairement à Shabbat où on pouvait pas. Du coup, on regarde les nouvelles sur le portable. Et puis, on attend, on regarde parce que on a tous en général on a tous une application. Il y a plusieurs applications. Et sur l'application, on voit effectivement quand est-ce qu'il faut sortir. Voilà.
Alors, vous êtes précisément à Jérusalem. Racontez-nous un petit peu l'ambiance aujourd'hui. Est-ce que vous avez entendu encore de nouvelles sirènes d'alerte?
Oui, aujourd'hui, effectivement, il y avait des sirènes. Oui, on a une il n'y a pas longtemps. Donc, on est rentré, mais visiblement, ça n'a pas fait trop de dégâts. Enfin, de ce qu'on dit. Moi, je ne suis pas sortie personnellement parce que je n'avais pas grand-chose à faire. Mais j'ai une amie qui habite à côté du Chouk, de Machane Yehuda, qui est partie faire des courses là-bas parce qu'elle avait besoin de nourriture et qui a dit que le Chouk était presque vide, et les trois quarts des boutiques étaient fermées. Bon, il y a plein de choses qui fonctionnent pas. Je veux dire, on est un peu au ralenti, quoi.
Et cette nuit, donc, vous allez encore passer la nuit dans le Mamad?
On va pas passer la nuit dans le Mamad. Nous, on a de la chance. On a un Mamad dans l'appartement. Donc, on dort dans notre lit habituel. Et comme à Yerushalayim, là où je suis, on a 1:30 pour se mettre dans la chambre, le Mamad. Donc, on a le temps de se lever de son lit, qui est plus confortable que le Mamad, et d'aller là-bas.
Et pour avoir une analyse plus précise sur la situation entre Israël et l'Iran, nous allons tout de suite écouter une interview de Bernard Aboeuf qui a interviewé Robert Zvili, président du KKL.
Robert Zvili, bonsoir.
Bonsoir.
Robert Zvili, vous présidez l'une des principales institutions israéliennes à Paris, au point que vous êtes d'ailleurs sous haute sécurité en ce moment. Votre point de vue sur l'opération en cours et sur la guerre entre Israël et l'Iran?
D'abord, c'est une guerre existentielle. C'est le 13 juin restera comme une date marquée dans le calendrier juif. C'est une opération exceptionnelle. C'est une opération qui était nécessaire. C'est-à-dire que, encore une fois, le peuple juif était en danger et en danger d'extermination. On était à deux doigts. Et il fallait que cette opération ait lieu. Elle a été déclenchée le 13 juin et Tzahal fait le boulot d'une manière exceptionnelle. Voilà, ça c'est le départ.
Ce que les Israéliens appellent le cadre, le frame. Ouais.
En Israël, il n'y a pas de... Quand on entend parler en Israël actuellement, quand on discute avec les gens en Israël, il y a un consensus général.
Il n'y a pas d'opposition.
Et il y a une solidarité, mais sans faille. Et c'est là où le peuple juif est exceptionnel. C'est-à-dire, autant on peut se foutre sur la gueule de manière régulière et avoir des problèmes internes sur la conscription, pas la conscription, Bibi, pas Bibi, etc. Là, l'ensemble du peuple est derrière. L'ensemble du peuple est derrière et d'une manière exceptionnelle. Exceptionnelle.
Les débuts de guerre, il y a toujours ce consensus en Israël.
C'est pas une guerre comme les autres. C'est pas une guerre comme les autres. C'est une guerre qui se passe à 2000 km. C'est une guerre qui intéresse un pays qui est la tête de la pieuvre, hein, quand on avait la guerre à Gaza ou au Liban ou en Judée-Samarie. C'était avec des voisins. Là, c'est pas avec des voisins, c'est avec la tête de la pieuvre. C'est l'organe suprême qui dirigeait tous les proxys autour. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu de problème avec la bande de Gaza, il n'y aurait pas eu des problèmes au Liban. S'il n'y avait pas eu le Hezbollah, il n'y aurait pas eu de problème à Gaza. S'il n'y avait pas eu le Hamas, il n'y aurait pas les problèmes en Judée-Samarie. S'il n'y avait pas aussi l'infiltration, et tout ça a été soutenu, armé. Par l'Iran.
Et d'ailleurs, je me demande, moi, justement, si toute l'affaire de la vie de Netanyahou n'était pas finalement l'Iran.
Ça fait 15 ans qu'il a, entre guillemets, qu'il a le même refrain. Il va à l'ONU, il sort la carte, machin, il sort la bombe, etc. C'est-à-dire, lui avait, Netanyahu est un, il a beaucoup de défauts. Sûrement. Comme tout le monde. Mais il a quelque chose que nous n'avons pas, c'est l'intelligence. Je crois qu'il est supérieurement intelligent et qu'il a une vision, et politique et géopolitique exceptionnelle. Lui savait où était le problème. Depuis le début.
Parce que l'opération comme ça ne se prépare pas en deux jours, donc ça fait moins de 3 semaines qu'il a fait croire à tout le monde qui se posait des questions.
Mais ça fait 15 ans que Tsahal et que les services de renseignement travaillent dessus. On a eu la chance, Bernard, tu étais avec nous, de recevoir à Paris un des principaux artisans, puisque Yossi Cohen, ancien patron du Mossad, était l'invité du KKL pour Toubichvat. Et à l'époque, bon, ce qu'il a raconté en public, c'est une chose, il pouvait pas en dire beaucoup parce que c'est quand même un manque de responsabilité. Mais on a eu des conversations privées et ce qu'il nous a raconté correspond à ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que le fait que le Mossad soit sur le terrain en Iran et que tout était, que ça soit au Liban ou en Iran, que le terrain était préparé, autant à Gaza, je pense que Gaza c'était sous le contrôle du Shin Bet, mais le Liban et l'Iran étaient sous contrôle du Mossad, et il nous expliquait au départ que la défense d'Israël c'était à plusieurs niveaux, mais que le premier niveau, le niveau principal, c'était l'intelligence, c'est-à-dire avoir le renseignement. Or là, en Iran, ils ont le renseignement. Ils savent faire, ils savent où il faut aller, ils savent exactement où ils en étaient. Et le déclenchement de cette guerre, il n'est pas innocent. On peut dire que de temps en temps, le peuple juif a un peu de chance, c'est-à-dire que le gouvernement a changé aux États-Unis, que Trump, c'est pas Biden, et que l'armement était... Ce qui est arrivé. Ah, mais des quantités phénoménales. Quand on voyait arriver, on se demandait pourquoi. Il y a deux gros avions qui arrivaient régulièrement en Israël tous les jours, en apportant du matériel. Et à l'époque, on aurait pu se douter que c'était pour quelque chose. C'est pas quelque chose qui se fait, comme tu dis, c'est pas quelque chose qui a été préparé en trois jours. C'est une opération qui a été préparée sur 10 ans, montée, l'opération actuelle, vraisemblablement sur au moins.
Bah, on a des photos de responsables du Mossad qui sont au sol, à Téhéran.
Oui.
Et ils ont donné les informations à Ynet, à Israelium, pardon. Est-ce que vous savez, Robert, qu'ils ont, il y a plusieurs semaines de cela déjà, volé, exporté des drones iraniens qui aujourd'hui sont à Tel Aviv? Il y a 3 semaines de ça. Ils sont rentrés dans les hangars, des gars qui étaient au sol, qui ont ouvert les cartons, qui ont ouvert les caisses de drones, et qui les ont ramenés en Israël, vous imaginez. Mais ça, c'est le Mossad le plus mythique qu'on connaît.
C'est ce que je dis, c'est extraordinaire. Il nous expliquait que la défense d'Israël, c'était le renseignement. Et là, j'ai compris pourquoi la défense d'Israël, c'est le renseignement. Et il disait que l'Iran, c'est pas facile. C'est pas un terrain facile, c'est pas quelque chose de... Parce qu'en Iran, il y a une armée, mais l'armée compte absolument pas, ou pratiquement pas, mais il y a quelque chose qui s'appelle les gardiens de la Révolution. Et les gardiens de la Révolution, c'est pas uniquement une armée, c'est l'équivalent des SS. Il faut pas chercher, si on doit chercher une comparaison, c'est celle-là. C'est l'équivalent des SA et des SS. C'est les bras armés du pouvoir islamiste, en fait, communiste. Mais c'est pas uniquement l'armée, c'est également l'économie. C'est-à-dire c'est eux qui gèrent le pétrole, qui gèrent les raffineries, qui gèrent l'industrie. C'est-à-dire il n'y a pas une famille en Iran qui n'est pas dépendante des gardiens de la Révolution. Non pas uniquement physiquement, mais aussi économiquement. C'est pour ça que faire tomber le régime iranien, c'est pas facile. Pourquoi la population... À 90% de la population est contre le régime actuel. Mais pourquoi ils descendent pas? Ils descendent pas, un, parce qu'ils ont peur, parce que les gardiens de la Révolution, c'est quelque chose de très solide sur le plan militaire et policier. Et deux, c'est solide également sur le plan économique. Et quand on regarde ce qui se passe, quand on regarde les cibles de... israéliennes actuellement en Iran, c'est d'une part l'encadrement des gardiens de la Révolution, d'autre part les scientifiques. Rien n'est fait au hasard. Et hier, quand j'ai vu qu'ils avaient pour la première fois bombardé à Téhéran une raffinerie et que la raffinerie était en feu, c'est-à-dire qu'il touche également le côté économique des grands de la Révolution. Et si la population descend dans la rue, elle descendra pour des raisons économiques, pas uniquement pour des raisons politiques. 90% ils sont contre, il n'y a pas de problème. Les Iraniens, c'est des Perses, c'est une civilisation très développée. C'est-à-dire sur le plan intellectuel, c'est l'équivalent des Israéliens. Pas se leurrer, si demain matin il y a la paix avec l'Iran, mais ça fait une force puissante au Moyen-Orient. C'est-à-dire entre la technologie qu'il y aura en Iran, les têtes qu'il y a en Iran et les têtes qu'il y a en Israël, mais c'est extraordinaire. Donc c'est quelque chose qui est en train de se passer. Et pas. C'est pour ça que
pas
je dis.
Pas désespérant pour une fois, d'après vous.
Non, mais c'est une page de l'histoire. Alors, c'est vrai reprendre les paroles de Begin quand il a fait aux Irak, de dire plus jamais ça, et c'est ce qui se passe là. Plus jamais ça, parce qu'on était quand même à 15 jours de la bombe atomique. Et c'était. Le danger, c'était la destruction de l'État d'Israël. C'était pas symbolique, c'était pas hypothétique. Il le disait tous les jours, il faut les croire quand il parle. Quand il disait le jour où on aura la bombe atomique, on fera disparaître l'entité sioniste, parce qu'il ne parlait pas d'État d'Israël, mais d'entité sioniste, il le disait tous les jours, mais tous les jours. C'était dans leur langage et c'était leur optique. Et c'est pour ça que le 13 juin restera comme une page de l'histoire, parce que de l'histoire.
Mais on le souhaite. Sioniste. On le souhaite avec vous.
Voilà. Mais je ne pense pas que ça soit aussi court que ça.
Pour l'instant, ils ont fermé pendant 10 jours. Pour l'instant.
Ce que je voudrais dire, c'est que on ne dort pas, on est à l'écoute et on souffre avec les Israéliens. Parce que ce n'est pas facile ce qui se passe. Ils sont dans les miclates. Toute la vie est arrêtée. Les commerces sont fermés, les enfants ne vont plus à l'école, ils peuvent pas, ils ont une liberté de circulation très limitée. C'est dramatique ce qui se passe. Moi, j'ai de la famille là-bas, vous savez, j'ai mes petits-enfants là-bas. Quand je parle avec eux, c'est dur. C'est très dur.
Ils le disent eux-mêmes. Ils disent là, c'est une guerre avec des missiles qui sont de la taille d'un. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit les missiles sont de la taille d'un immeuble.
Mais quand vous regardez
on peut aussi avoir l'idée d'aider le KKL. KKL reconstruit.
Sans problème. Mais de toute façon, on reviendra derrière. Pour le moment, on pense à eux et ensuite on travaillera pour eux. Voilà, donc je pense qu'on le fera.
Robert Svili, je vous remercie. Je sais très bien que d'ailleurs vous avez déjà commencé à construire plein de choses, notamment à Kfar Aza. Donc voyons, on passe d'un drame à un autre.
Notamment, voilà.
Et je vous remercie.
À bientôt.
Bonsoir. Robert Svili, le président du KKL.
Et avec que des bonnes nouvelles.
France, amen.
Voilà.
On se retrouve dans un instant pour la suite de ce journal.
Radio Shalom, la radio qui vous écoute.
La radio qui vous écoute.
Le KKL, depuis 120 ans, une histoire extraordinaire.
Une aventure qui mêle écologie, réalisation d'infrastructures et plantation d'arbres. Une histoire d'éducation sioniste et d'investissement dans le futur des jeunes générations.
Le KKL, c'est la réalisation du rêve de ceux qui ont cru en ce miracle que l'on appelle Israël.
Mais par-dessus tout, le KKL, c'est un amour indéfectible et un engagement pour la terre et le peuple d'Israël.
Faites partie de cette aventure en soutenant le KKL de France.
Faites votre don sur KKL.fr.
La 20e édition du Festival des Cultures Juives. Concerts, rencontres, théâtre, expo, du 15 au 30 juin, découvrez un programme inédit au cœur de Paris. Pour sa soirée d'ouverture, le contrebassiste Avishai Cohen vous donne rendez-vous dimanche 15 juin à 19h dans le cadre intime du Théâtre du Rond-Point pour vivre une expérience musicale inoubliable. Détails et réservations sur festivaldesculturesjuives.org.
Du TGM au TGV, en partenariat avec Radio Shalom, vous propose d'assister aux deux dernières représentations de ce film documentaire qui retrace l'histoire et le ressenti des Juifs tunisiens arrivés en France. Ne manquez pas ces deux dernières séances au cinéma Le Balzac, le mercredi 15 juin et le mercredi 25 juin. Réservation sur www.dutgmautgv.fr. www.dutgmautgv.fr.
Les cultures juives, ça se défend. Et les Cuges aussi. Soutenir les CUJ, c'est transmettre la richesse des cultures juives, lutter contre l'ignorance et renforcer une vie juive libre, ouverte et accueillante. Les 15 et 16 juin, on compte sur vous pour la première grande campagne d'appel aux dons de les CUJ.
Et votre impact est doublé.
Oui, oui, chaque don compte double.
Double.
Alors rendez-vous les 15 et 16 juin sur allodon.fr/ecuj. Facile, allodon.fr/ecuj.
Ah, je me sens mieux, au calme, au chaud, et puis j'ai vu la différence sur ma facture d'énergie.
Pour moi, c'est le jour et la nuit. J'ai eu l'impression de changer de maison.
Vous avez envie de changer de vie ? Commencez par changer de fenêtre. Depuis 25 ans, la Maison de la Fenêtre vous change la vie en vous apportant plus de confort, plus de lumière et de vraies économies d'énergie.
La pose s'est faite en une journée. Hyper pro !
La Maison de la Fenêtre, certifiée Calibat RGE, 01 42 11 03 03, 01 42 11 03 03.
Bonjour, c'est Greg. Je vous attends chaque mardi soir de 20h à 21h sur Radio Shalom pour mon émission Une question, un spécialiste. Mon équipe de spécialistes répondra en direct à toutes vos questions, chacune et chacun dans leur discipline. Alors à mardi prochain.
Vous êtes sur Radio Shalom.
Radio Shalom.
Et de retour pour un point sur l'information où le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est rendu sur le site d'Impact à Bat Yam. Au nom de tout le peuple d'Israël, j'exprime ma tristesse pour la perte de vie survenue ici. Nos cœurs sont avec les familles, a-t-il déclaré. Le Premier ministre israélien a par ailleurs qualifié le conflit de bataille existentielle et averti l'Iran qu'il payera très cher le meurtre délibéré de civils, femmes et enfants. Nos soldats, nos pilotes volent au-dessus des cieux iraniens. En visite sur le site de la frappe iranienne ayant tué 6 civils à Bat Yam, le président israélien Isaac Herzog a exhorté les dirigeants du G7 à collaborer avec Israël pour empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. Il a affirmé que le régime iranien menaçait la paix mondiale par ses attaques, ses missiles et son programme nucléaire. Nous défendrons non seulement Israël, mais l'humanité tout entière, a-t-il déclaré. Pour rappel, le sommet du G7 s'ouvrira demain au Canada. Retour en France, où le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a déclaré lors d'une interview à RTL que le programme nucléaire iranien constituait une menace pour Israël, la région et la France. Le programme nucléaire iranien est une finalité militaire. Il représente une menace existentielle pour Israël, pour les pays de la région et pour nous également, a affirmé Jean-Noël Barrot. Le chef de la diplomatie française a par ailleurs insisté sur le fait que la seule façon de se débarrasser de cette menace passe par la négociation. Le président français, dans le même temps, s'est entretenu avec le président iranien Massoud Pezeshkian, lui demandant de revenir rapidement à la table des négociations sur le nucléaire et l'exhortant à ce que les Français en Iran et dans la région ne soient en aucun cas visés. Mon premier message a été d'exiger la libération immédiate de nos compatriotes Cécile Kohler et Jacques Paris, otages du régime iranien dans des conditions inacceptables depuis maintenant plus de 3 ans, a-t-il ajouté sur X. Le reste de l'actualité en France, c'est aussi Jérôme Guedj qui attaque Jean-Luc Mélenchon. Le député socialiste a accusé le leader de la France insoumise d'être devenu un salopard antisémite à la tribune du congrès du PS à Nancy. Les deux hommes, pour le rappel, ont été des proches par le passé. On l'écoute.
Un salopard antisémite avec des propos qui sont pour nous absolument insupportables. Nous devons la revendiquer sur la laïcité, je n'ai pas le temps d'en parler, sur la République sociale, sur l'ensemble des territoires perdus de la République. Et de là où je suis, mes amis, et je termine par là, je suis un fervent défenseur du rassemblement de la gauche et des écologistes. Mais je nous abjure collectivement, ne vendons pas notre âme aujourd'hui au nom de ces huées fanatiques. Il n'est plus possible, d'une manière ou d'une autre, d'avoir la moindre point de contact avec ceux aujourd'hui qui abîment la gauche, qui abîment l'universalisme, qui abîment la République, qui abîment la laïcité et qui, ce faisant, abîment la République sociale chère à notre cœur.
Voilà, de son côté, le coordinateur national de la France insoumise, Manuel Bompard, a demandé au patron du PS, Olivier Faure, de faire des excuses publiques. Et enfin, Yonatan Arfi, réélu à la tête du CRIF, il est déterminé à rendre l'influence de la France insoumise résiduelle. En effet, Jonathan Arfi, 45 ans, a été réélu cet après-midi dès le premier tour à la tête du CRIF pour une durée de 3 ans. Ma priorité politique sera de rendre résiduelle l'influence politique de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, et je poursuivrai le combat contre toutes les formes d'antisémitisme, a-t-il affirmé dans un communiqué. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant, dans un vraiment très court instant, Fabrice Madard avec toute son équipe pour À Contre-Courant.
Salut Alexis.
Salut Élie.
Salut Lévana, salut Fabrice.
Salut à tous, retrouvez-nous dans À Contre-Courant sur Radio Shalom en direct tous les dimanches à 18h30.
Ensemble, nous referons le monde avec des points de vue bien différents des médias traditionnels.
À Contre-Courant, l'émission que vous ne vous attendiez pas à écouter sur les ondes juives.
Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio Shalom en direct. Il est 18h30 précise pour notre émission hebdomadaire À Contre-Courant. C'est un plaisir de se retrouver. Évidemment, une actualité difficile, comme souvent, hélas, depuis le 7 octobre. On va pas trop tarder parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. On aura quelques témoignages d'ailleurs dans cette émission. On va tout de suite discuter avec Serge. Je vois qu'il est déjà prêt. Serge,
bonsoir.
Bonsoir Serge. Tes impressions par rapport à cette situation terrible, cette guerre qui s'est décidée en quelques heures, en quelques jours, et le chaos finalement en Israël avec les représailles bien sûr iraniennes sur le sol israélien, mais surtout ce coup de maître de l'armée israélienne et de ses services secrets qui ont mis chaos l'Iran en quelques heures. Alors on espère qu'il soit vraiment chaos, même s'ils essayent de sauver un petit peu la face. Mais on a l'impression quand même qu'ils ont été secoués et qu'ils ne sont pas vraiment aussi forts que ce qu'on craignait.
Ah, ce n'est pas une surprise. Quand tu dis que ça a été décidé récemment, non. Visiblement, l'opération a été décidée depuis très longtemps, organisée depuis très longtemps, très bien organisée, avec des infiltrations. Il faut dire qu'il y a une grosse différence avec d'autres territoires de la région. C'est qu'en Iran, il y a beaucoup de sympathisants pour Israël. Je ne sais pas si vous pouvez discuter aujourd'hui en France avec des Iraniens. On ne trouve pas un seul Iranien qui, quand on dit on travaille dans des radios juives, tous nous disent on a de très bonnes relations. On sait qu'en Iran, ils n'ont qu'une seule envie, c'est que le régime tombe. On sait qu'en Iran, le peuple a une envie, c'est que cette opération permette de faire tomber ce régime. Donc c'est la seule chose qu'il fallait faire. Évidemment, l'Iran est la tête du mal. Il finance toutes les opérations terroristes, que ce soit à Gaza, que ce soit au Liban, que ce soit dans d'autres territoires. Donc cette opération était indispensable. Ils ont retardé, mais on voyait bien que de toute façon, l'Iran faisait tout tergiverser et discuter pour laisser le temps à construire leurs installations. Et il n'y avait plus le temps parce qu'aujourd'hui, on arrivait à une situation où ils étaient très, très proches de la bombe atomique militaire et il n'y a pas le choix. Donc Israël a fait ce qu'il fallait faire. Autant on peut contester beaucoup de choses sur le gouvernement, autant ça, c'était nécessaire, c'était impératif.
Ah, ça fait plaisir d'entendre Serge féliciter le gouvernement israélien. Et c'est vrai qu'on a été bluffés par cette opération exceptionnelle et le courage, bien sûr, de nos frères en Israël qui sont dans les avions, qui prennent les décisions à tous les niveaux. C'est vraiment une prouesse, une nouvelle fois, et une fierté pour les Juifs du monde entier. Et on le dira tout à l'heure, un travail... finalement, le sale travail, le sale boulot réalisé par 7 millions...
Et d'ailleurs, il n'y a presque aucun pays qui dénonce, même les pays arabes sont contents. Il y a très peu de pays. En France, on va dire qu'il y a que le LFI qui conteste, bon, sans surprise. Et voilà, c'est... monde est soulagé, tout le monde est soulagé dans la région. Bon, même si pour certains, ils ne s'affichent pas trop, mais on voit que la Jordanie a participé à la préservation, à protéger a permis d'arrêter certains drones. Enfin bon, voilà, la question ne se pose pas.
Oui, c'est vrai que c'est une opération qui a fait quasiment l'unanimité dans le monde et surtout, bien sûr, dans le monde occidental. Comme tu l'as dit, même à gauche, ça s'entretue en France. Donc tout ça, c'est des bons signaux. Ça fait plaisir parce que il y a quelques jours, on était des génocidaires et puis maintenant, on est en train de sauver le monde. Un volte-face incroyable dont Macron est finalement le représentant principal. Alors, on va tout de suite écouter Élie. Élie, je crois que t'es arrivé en France. Juste avant, on va dire, le début de la guerre.
Exactement. Donc, je suis à Paris depuis mardi et je me sens toujours coupable quand je suis à Paris et qu'il se passe quelque chose de cette ampleur en Israël. Ça arrive souvent. Je ne sais pas si c'est le... Comment dire...
Ça a été coupé.
Ça a été coupé. On va écouter Eli qui va se reconnecter dans un instant. Et on aura tout à l'heure également le témoignage de Lior, un habitué de l'émission, qui lui, justement, est français. Il est parti en Israël et il est coincé en Israël puisqu'il est arrivé jeudi. Et puis dans la nuit, on le sait que l'opération a démarré. Alors Serge, donc on parlait de LFI, mais à gauche finalement, pour une fois peut-être, il y a une partie de la gauche qui a retrouvé ses esprits. Toi qui es plutôt sympathisant, en tout cas toujours à l'écoute de ce parti.
Je suis à l'écoute, je suis sympathisant, je suis journaliste, donc je suis sympathisant de rien. Enfin, j'ai mes idées, mais enfin bon, je voilà. Quoi qu'il en soit, j'écoute. Il y a des gens de gauche qui me semblent tout à fait écoutables, qui me semblent tout à fait honorables. Ce qu'a fait Jérôme Guedj est une mise au point, parce qu'il faut évidemment le dire. Ce qu'a fait Jérôme Guedj est une mise au point nécessaire. Il met les pieds dans le plat. Il y avait déjà le député Ruffin qui avait déjà dit ce qu'il en était en grande partie, mais là, Guedj met les pieds dans le plat et il a raison. Il suffit de lire La Meute aussi, le bouquin La Meute qui est très intéressant, que je vous conseille tous de lire. Il faut faire un succès. Il est en tête d'ailleurs des ventes des livres et c'est très important. Et il y a une radio là qui marche, on entend un retour. Quoi qu'il en soit, il faut lire ce livre dans La Meute, c'est très intéressant, c'est très important et on comprend tout, on comprend vraiment l'influence de certains éléments de l'EFI, on voit l'évolution, on voit que Mélenchon n'a qu'une seule envie, c'est lui, c'est le Mao, c'est le Staline, c'est le tout autour de lui. Et Guedj a fait une chose très importante. À un moment, il faut mettre les pieds dans le plat, il faut arrêter de tourner autour du pot.
Bon, je me reprends la parole, désolé.
Bien sûr,
j'ai été coupé. Mais tout ça pour vous dire que, en effet, je me sens toujours un peu coupable d'être à Paris quand il se passe ce genre de choses en Israël. Des événements aussi importants, ah, aussi qui vont peut-être redessiner le Moyen-Orient, et c'est Israël qui met la main dans le cambouis, mais en fait c'est parce qu'on est dans une bande on est parmi une bande d'hypocrites, parce que soi-disant que il fallait faire le sale boulot et c'est Israël qui le fait, mais en fait tout le monde sait qu'Israël est en première ligne. C'est-à-dire que si l'Iran, un jour, se dotait vraiment, finalisait vraiment son installation nucléaire, son équipement nucléaire, atomique, eh ben, il aurait déjà frappé Israël en première ligne et ensuite, il se serait occupé d'autres cibles. Donc, on sait très bien que c'est le bal des hypocrites et que, au final, personne ne veut mettre la main à la pâte, parce que il y a une peur, il y a peut-être la peur de la Russie en arrière-plan, il y a la peur de déstabiliser ce Moyen-Orient qui est toujours au bord de l'explosion, et on sait très bien que l'Iran tire toutes les ficelles de aujourd'hui jusque dans le monde occidental, d'accord. Donc c'est la tête de l'hydre, c'est la tête de la pieuvre. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'il n'y a que Israël qui peut mener cette guerre, parce que contrairement aux autres cibles que l'Iran pourrait cibler, Israël est vraiment non seulement en première ligne, mais serait totalement anéanti si demain l'Iran se s'équipait. On vit en Israël notre survie, ce qui n'est pas le cas d'autres puissances occidentales. Donc c'est pour ça qu'il y a cette timidité derrière Israël, et même cette frilosité même de l'Amérique qui attend de voir ce qui va se passer si Israël tout seul arrive à mener à bien sa stratégie jusqu'au bout. Et on voit bien encore que les masques tombent. Même sur ce sujet-là, on voit comment le peuple iranien, qui n'a intéressé personne jusqu'à maintenant, intéresse la gauche. Comme par hasard, subitement, la gauche s'intéresse au sort du peuple iranien, soi-disant sous le joug de ce régime dictatorial totalitaire sanguinaire.
Ça trompe personne.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que les belles âmes, comme d'habitude, se réveillent quand c'est Israël qui rentre dans la partie. Mais avant, ce pauvre peuple iranien n'intéressait personne. On voit encore que les masques tombent.
No news, no news. Exactement. No news.
Alors les amis, d'accord, Serge, ça fait plaisir.
Ben oui, j'aime vous savoir d'accord. Les amis, juste avant de se quitter pour la pub, une remarque incroyable et vraiment, on le dit souvent, mais là, je veux le répéter, c'est incroyable. 7 millions de Juifs dans un tout petit pays, entouré de 2 milliards de musulmans, qui arrivent comme ça à faire peur, à repousser l'adversité, à réaliser des coups de maître à 2000 kilomètres de son pays, alors que ils sont 2 milliards autour à vouloir la destruction. C'est quelque chose de miraculeux et c'est là où on voit le génie israélien, le génie juif et la main de Dieu, bien sûr, parce que ça paraît comme ça, nous, parce qu'on le vit. Mais si on doit raconter à quelqu'un, il ne pourrait pas croire. C'est extraordinaire, des prouesses technologiques, des enquêtes, des stratégies. C'est vraiment impressionnant et on est vraiment fiers de nos frères israéliens qui réalisent des prouesses incroyables. C'est vraiment le miracle. Ça nous rappelle presque, Élie, je sais que t'aimes bien Astérix, Obélix, c'était vraiment ça, avec la potion magique, la Torah, et ce petit peuple-là qui résiste à tous ces Romains autour. C'est vraiment incroyable, impressionnant quand on y pense, et c'est vraiment extraordinaire. Voilà, on revient dans un instant, les amis, parce qu'on a beaucoup de choses à dire, et on aura deux témoignages. Ne bougez pas. À tout de suite après la pub.
Vous êtes sur Radio Shalom.
Message de Hort France. Chers partenaires, experts comptables, entreprises, en versant le solde de votre taxe d'apprentissage aux écoles Hort France, vous soutenez l'innovation, l'éducation et l'avenir de nos étudiants.
Votre contribution fait la différence. Dès le 27 mai, connectez-vous sur la plateforme Soltea et fléchez vers les écoles du réseau Hort France.
Une question ? Appelez-nous au 01 44 17 30 80 ou rendez-vous sur hort-france.fr.
ORT-France.fr.
Merci pour votre engagement.
La société iCUB vous invite à la 89e édition du Salon de l'Immobilier et de l'Investissement qui se tiendra à Paris le dimanche 6 juillet prochain à partir de 10h30 au Centre Européen du Judaïsme, Paris 17e. Vous souhaitez investir, acheter ou simplement en savoir plus sur le marché immobilier? Venez à la rencontre de promoteurs prestigieux, d'agents immobiliers expérimentés, de courtiers avec des solutions adaptées, des avocats pour vous conseiller. Des nouveaux programmes de qualité à des prix promotionnels très attractifs et des facilités de paiement inédites. C'est le moment de franchir le pas et d'écrire une nouvelle page de votre avenir. Nous vous attendons nombreux le dimanche 6 juillet à partir de 10h30 au Centre Européen du Judaïsme, Paris 17e.
Salut Alexis.
Salut Élie.
Salut Lévana. Salut Fabrice.
Salut à tous. Retrouvez-nous dans Un Contre-Courant sur Radio Shalom en direct tous les dimanches à 18h30.
Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM.
Et de retour pour Un Contre-Courant, notre émission préférée, les amis, sur Radio Shalom. Alors, on va tout de suite donner également la parole, parce qu'on a beaucoup de choses à se dire, à Gilbert. Gilbert qui était présent là il y a quelques minutes à un rassemblement. Gilbert, si tu peux nous en dire plus, parce qu'on sait que tu as toujours des très bonnes analyses du terrain.
Effectivement, Fabrice, la situation... est extrêmement tendu au niveau de ce qui se passe en Israël et de ce qui se passe à travers toute la communauté juive du monde. Et c'est pour ça qu'en ce moment, il faut faire beaucoup preuve de prudence à travers la planète pour que tous nos frères et sœurs soient protégés et qu'il leur arrive rien du tout. Parce que les gens n'acceptent pas ce qu'on est en train de faire. Les gens ne comprennent pas qu'on est en train de tuer la tête du serpent. Un pays qui, s'il avait la bombe atomique, l'aurait envoyé hier ou avant-hier, et aujourd'hui il ne l'a pas, et il ne l'envoie pas. Et ça, c'est très important. Concernant la situation de la position d'Israël à travers le monde, dans son entourage, il est évident que beaucoup de pays veulent sa destruction, mais je peux vous dire qu'il y a des pays qui ont accepté le survol aérien comme l'Arabie Saoudite ou la Syrie, et on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des gens qui veulent notre existence, qui veulent notre savoir-faire, qui veulent vivre avec le judaïsme, et je pense qu'il faut cerner la différence qu'il y a entre nos ennemis et nos amis. Même s'ils ne sont pas comme nous, mais on a des amis.
Je ne sais pas si ce sont des amis, mais bon.
J'en vois.
Des alliés.
Des alliés, on va dire.
Des alliés objectifs.
N'exagérons pas.
Des alliés objectifs.
N'exagérons pas, et croyez-moi qu'il y a des gens qui veulent travailler avec Israël et qui ne se sont jamais fâchés, comme le Maroc, comme les Émirats Arabes Unis, et il faut penser qu'il y a des gens quand même positifs autour d'Israël et ne pas mettre tout le monde dans le même sac, s'il vous plaît. Je ne cherche pas à des amitiés supplémentaires, mais je crois qu'il est important de savoir et de cerner. Quant à l'extrême gauche, il faut même plus en parler, c'est un parti antisémite, nazi, qui veulent la destruction des Juifs et d'Israël. Et il ne faut plus en parler parce qu'on leur fait la publicité et on leur fait, on les fait agrandir, on les fait grandir pour les prochaines élections. Et il faut ne plus en parler du tout. Je pense que c'est la meilleure solution de les combattre.
On n'aura plus rien à dire après, Gilbert.
Oui, mais
je plaisante.
Je pense qu'on leur fait trop de publicité. Il faut surveiller. En France, l'attitude du Parti Socialiste pour ne pas qu'il y ait de débordement à vouloir récupérer des voix de LFI. Et il faut laisser LFI, la Place de la République, la flottille de Rima Hassan. Et tout ça va s'écrouler dans les prochains jours parce que le pays va, en France, changer, puisque déjà la déclaration du président de la République, sans le soutenir par ses volte-face, mais la dernière déclaration qu'il a faite est vraiment très favorable à Israël. Et je pense qu'Israël, avec l'Angleterre, avec les États-Unis, n'est pas seul.
Alors justement, on ne va pas trop parler des gauchistes, mais on va en parler quand même, puisque j'étais dans le vol Elal qui extradait comment elle s'appelle, Greta Thunberg. Voilà, donc elle était à deux sièges de moi. C'est une petite enfant très timide qui a mis son kawé sur la tête pendant les 4 heures de vol. Je peux vous dire que la tension était palpable à l'arrière de l'avion. Tout le monde voulait lui dire combien il l'aimait, mais les agents de sécurité nous ont bien fait comprendre que le vol pourrait être soit annulé, soit retourné vers Ben Gurion si quelconque incident apparaissait pendant le vol. Donc chacun s'est très bien tenu, mais je vois quand même que le timing a été quand même favorable à Greta et à Rima, puisqu'elles ont pu rejoindre la terre de France avant que ces événements colossaux.
Netanyahou a fait attention.
Je sais pas, mais en tout cas, j'aurais juste aimé que Rima Hassan reste pendant cette crise iranienne. Ça m'aurait fait bien plaisir.
On l'aurait échangé contre nos otages à Gaza, peut-être.
Par exemple.
Alors justement,
je voulais juste, Fabrice, si ça
vas-y un petit mot rapidement, oui, parce qu'il nous reste peu de temps, il y a beaucoup de choses à dire.
15 secondes, parce que j'ai été extrêmement touché par une dame à un Shabbat Ratan dans la magnifique centre communautaire de Levallois, d'une femme qui ne pouvait pas aller en Israël pour le mariage de son fils mercredi. Et en tant qu'agent de voyage, je voulais rassurer la communauté que les vols vont bientôt reprendre et que les gens ne s'angoissent pas trop. Elal est en train de préparer une reprise imminente, mais la situation internationale l'oblige à fermer l'aéroport. Je sais que c'est une décision extrêmement difficile pour certains cas, parce que vous n'imaginez pas les cas qu'il y a dans un avion dans le sens Paris-Tel Aviv et Tel Aviv-Paris, mais je demande à la communauté d'être très positive et que quand l'aéroport est fermé, il est fermé pour tous les vols. Donc qu'ils patientent et les choses vont s'améliorer.
Les prix vont augmenter au moins, j'espère.
Oh, on n'est plus à payer, monsieur, c'est fini. Du moment qu'on arrive à Tel Aviv.
Alors, justement, Gilbert, c'est une très bonne remarque parce que beaucoup de mariages allaient se dérouler, des mariages de Français qui devaient partir en Israël et ont été annulés. beaucoup allaient partir en vacances. On sait qu'il y a également les Maccabiades qui doivent se dérouler du 8 au 22 juillet en Israël. 10 000 sportifs juifs venus du monde entier. On attend la décision des organisateurs demain, mais à mon avis, vu le contexte, c'est pas évident. Est-ce qu'ils vont avoir le courage de maintenir cet événement?
Alors Fabrice, comme je dis à tous mes clients qui me demandent des remboursements pour toute occasion par rapport à des départs imminents, sans faire de publicité pour Baccarat, je suis en passe d'acheter une boule de cristal demain matin pour pouvoir renseigner toutes ces personnes qui me posent des questions ici et ici et ici. Je demande juste une chose, de se concentrer, de demander la réussite totale d'Israël, la destruction de tous ces serpents iraniens et qu'on puisse retrouver un pays apaisé avec une nouvelle république en Iran et un Israël fort et puissant.
Merci. Alors, on va voir si on a la connexion avec Israël, avec Lior. Est-ce que Lior nous écoute? J'ai vu qu'il est connecté et son micro est fermé. On va voir si on peut entendre Lior, qui lui, justement, est un Français qui est parti jeudi et qui se retrouve finalement bloqué en Israël.
Pendant ce temps, je peux parler du nom qui a été donné pour cette opération, qui s'appelle Am Kelavi, un peuple comme un lion. C'est en fait la citation Am Kelavi Yakum, c'est ce peuple-là comme un lion se lèvera, et ce sont les propos que tiennent le prophète de malheur, Bilham, dans la parashat Balak, du Sefer Bamidbar, des nombres, et c'est en fait, je pense, innocent d'avoir pris ce nom pour cette opération, cette citation, puisque Bilham, on sait très bien que c'est un prophète des nations qui voulait maudire Israël, mais par la force de Dieu, Dieu lui a mis dans sa bouche des bénédictions, et en fait, comme quoi peut-être un jour, c'est peut-être le peuple iranien qui nous bénira de leur avoir de les avoir peut-être
comme j'ai dit tout à l'heure le peuple iranien n'en veut pas à Israël. Le peuple iranien n'a rien contre Israël pour la plupart. Tu discutes avec des Iraniens, on n'a aucun problème avec eux. Ils ont une seule envie, c'est que ce régime tombe, et le régime est totalement impopulaire et n'est que par la force. Et le problème, pardon, c'est de trouver des gens qui puissent diriger ce pays. Ça va être le truc, mais il faut trouver des gens qui dirigent ce pays.
Est-on sûr de ça, Serge? Parce que on disait la même chose de Gaza. On disait que c'était le Hamas
Moi, j'ai de la famille en Iran.
Oui. Et alors évidemment, le sujet est un peu tabou et c'est toujours très délicat de parler de ce sujet-là. Mais je dirais pas qu'il y a en fait, je ne sais pas s'ils détestent plus leur régime qu'une partie de la population déteste Israël. Et c'est toujours une question qui se pose avec tout le monde. Il y a une détestation d'Israël qui est quand même... À part le fait qu'on ait quand même des similitudes au niveau des cultures, effectivement, avec la culture iranienne, et la civilisation iranienne est très respectée en Israël.
La civilisation perse.
Perse, tout à fait. Discute
avec des Perses, des Iraniens en France, t'en as pas un seul. Quand tu dis, moi je me suis jamais caché vis-à-vis des Iraniens, je travaille, ça m'est arrivé de faire des émissions de radio sur d'autres radios avec des Iraniens. Ils me disent, je sors d'une bar mitzvah, je sors, j'ai des contacts. Pardon, aucun me dit qu'il y a un problème. Je n'ai aucun problème.
Il y avait pareil avec les Libanais. On pensait que les Libanais... Et on disait que les Libanais étaient foncièrement pas pour le Hezbollah, etc.
On va schématiser, les Libanais chrétiens avec qui tu peux discuter, on n'a aucun problème. Soyons réalistes, on n'a aucun problème avec les Libanais chrétiens. Je discute avec des Libanais chrétiens. Il n'y a pas très longtemps, j'étais dans un club de vacances, j'étais avec des Libanais à table. J'ai dit, j'ai visité le pays qui est en dessous de vous. Il m'a dit, qu'est-ce que vous feriez à notre place? À notre place, j'aurais dit, moi, à votre place, je partirais. Parce que pour vous, il n'y a plus d'avenir. On sent quand même avec les Iraniens, en plus On a vu la révolution femmes, vie, liberté. Les gens en ont marre. Les hommes ont aussi supporté les femmes. On voit ce qui se passe là-bas. On voit le nombre d'exécutions. Parce que là, il n'y a pas un mot en France sur le nombre d'exécutions de peine de mort. Je ne sais pas.
C'est un régime sanguinaire, monsieur. Arrêtez de broder, monsieur. C'est un régime sanguinaire. Vous prenez la définition dans le petit Robert. Celui qui ne correspond pas à la politique des mollahs est exécuté. Pendu, voilà,
et on ne sait même pas
où il sera enterré.
Alors,
régime sanguinaire, monsieur. Pas de contour, s'il vous plaît.
Les amis,
il faut appeler un chat un chat.
Gilbert, une seconde, parce que le temps passe et je suis obligé de vous couper. On a Jérémy qui est avec nous également. Jérémy Herskovitch, qui organise la semaine prochaine, et on est obligé d'en parler aujourd'hui parce que ça sera dimanche prochain dans l'après-midi, avant notre émission de la semaine prochaine, un événement très important aussi en France. On t'écoute, Jérémy, tu as quelques instants.
Bonjour, d'abord je voudrais saluer Gilbert parce que j'ai fait ses colos il y a 35 ans et je suis désolé que je lui mets un peu la honte parce qu'en fait je le vieillis, mais c'est pas grave, il m'excusera. Effectivement, donc le 22 juin, nous organisons un événement qui s'appelle We Will Dance Again Paris, qui sera un grand moment, une grande communion pour soutenir Israël. À la base, on avait prévu un spectacle dansant parce que c'était la fête de la musique israélienne, mais vous aurez compris qu'on ne peut pas danser sous les bombes, donc on a décidé de un petit peu retravailler cet événement qui sera autour d'un plateau de chanteurs qui viendront, pas de musique dansante, mais on sera là pour chanter pour Israël. Cet événement est soutenu par de nombreuses organisations. Notre idée, c'est de ramener toute la communauté juive venir soutenir Israël. Tous les amis d'Israël, évidemment, seront là avec nous. Et de très nombreuses associations nous ont soutenus. Il y aura un passage fantastique du président du CRIF et du président du FSJU. Donc c'est le 22 juin, place du Trocadéro, de 14h à 18h.
Voilà, dimanche prochain, on sera là, c'est très important.
Et nous tiendrons haut et fort notre drapeau bleu et blanc.
Bravo Jérémy.
On redira un mot juste avant la fin de l'émission. On a Lior qui est connecté, qui est bloqué entre guillemets en Israël dans le Miklat depuis son arrivée.
Alors que moi je suis bloqué à Paris.
Eh oui, c'est le monde à l'envers, les Israéliens bloqués à Paris et des Français bloqués en Israël. Lior.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, on vous écoute.
Eh ben écoutez, vous m'entendez, c'est parfait.
Parfaitement, très bien. Dépêchez-vous, il nous reste 2 minutes.
Nous sommes arrivés à Tel Aviv donc le jeudi vers 20h pour un mariage d'un neveu. Et puis à 21h, comme par hasard, ils ont fermé l'aéroport de Ben Gurion. Et nous sommes trouvés coincés à Tel Aviv avec notre petite fille qui a voulu passer une semaine avec papy et mamie. Le problème, c'est que le jeudi soir, il y a eu des sirènes pour nous prévenir qu'il faut se cacher dans les chambres fortes, soit les miklat, je crois, qu'on les appelle en Israël. Et puis, nous avons eu une nuit blanche, puisque nous avons été réveillés au moins 3 fois. Le lendemain soir, c'est-à-dire vendredi, nous n'avons pas eu le droit d'aller à la synagogue. Par contre, nous avons été réveillés encore 3 fois dans la nuit par des sirènes. Et donc, de nuit sans dormir, c'était difficile et un peu fatigant. Par contre, samedi soir, j'avais le pressentiment que l'Iran allait se venger de l'attaque des Israéliens. Et j'avais donc décidé de partir de Tel Aviv pour une petite ville du nord qui s'appelle Hadera. Je connaissais un hôtel tranquille dans le nord du pays. Je pense que j'ai bien fait de partir, puisque dans la région de Tel Aviv, il y a eu plusieurs missiles qui sont tombés le samedi soir et même un missile a endommagé un immeuble à Bat Yam avec des morts. Malheureusement, donc, il y a eu des morts. Imaginez-vous, si l'Iran possédait la bombe atomique, il aurait eu des milliers de morts et la fin d'Israël. Finalement, Israël fait toujours le sale boulot pour sauver les Juifs, l'Occident et même les pays arabes. Je pense qu'il faut être fier de notre armée, de son efficacité et de services de renseignement. Depuis que je suis à Hadera, il y a eu 2 alertes, mais rien de méchant. On a dormi tranquillement. Pour l'instant, c'est un peu calme. Nous attendons cette nuit pour la suite de la réplique de l'Iran. Mais honnêtement, je pense qu'Israël aurait dû réagir plus tôt. L'Iran n'aurait pas eu ce genre de missiles très sophistiqués s'ils avaient attaqué déjà depuis plusieurs années. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère passer une bonne nuit ce soir avec ma femme et ma petite fille. et nous attendons l'ouverture du ciel pour pouvoir revenir à Paris.
Merci pour ce témoignage et cette bonne idée de partir à Hadera en espérant qu'ils ne nous écoutent pas, parce que sinon ils vont peut-être changer de direction les bombes. Alors, on préfère en rire qu'en pleurer, mais on va penser quand même très fort aux 13 personnes qui ont été tuées jusqu'à présent.
Alors moi justement, tout le monde m'appelle, m'envoie des messages pour me dire « je sais que tu habites à Batiam ».
Exactement, voilà, il y a eu beaucoup de…
Donc ma famille va bien, mais bien c'est vrai que c'est assez impressionnant de se dire que ces destructions qu'on a vues sur les vidéos, sur les photos… se trouve à 3 stations de tramway de là où j'habite. Donc, mais on remarque aussi que ce sont des gens, je crois, qu'il me semble, si mes informations sont bonnes, qui n'étaient pas dans leur mamad, c'est-à-dire leur miclat d'appartement,
parce qu'il
n'y en avait pas, dans cet immeuble. Ils ne se sont pas précipités dans le miclat qui était souterrain. Et donc, ils ont malheureusement péri dans cette attaque. Mais c'est donc le Pikoud Daoref, ce qu'on appelle le commandant du front intérieur en Israël, insiste bien de parfaitement se calfeutrer dans les miklatim dès qu'il y a des sirènes.
Voilà, très important. On va finir là-dessus. Très important, si vous nous écoutez peut-être d'Israël, quand vous entendez les alarmes, les sonneries très fortes, surtout ne prenez aucun risque. Allez aux abris. Normalement, vous serez protégé. Le mot de la fin, on va le redonner à Jérémy qui organise quelque chose de très important pour Israël, pour la communauté juive de France. On t'écoute, Jérémy. Un petit dernier mot parce qu'on a débordé complètement ce soir.
Allez, c'est le 22 juin. Grand